Donc, être témoin de Jésus, ne soyons pas des pusillanimes. Sortons du bois, intelligemment. Et puis, d'autres choses, d'autres, donc on a vu la marque, Marc 10, donc l'aveugle de Jéricho. Moi, j'aimerais bien voir avec vous une autre chose, c'est Marthe et Marie. Marthe et Marie, vous l'avez dans Luc, ce n'est que dans Luc. Luc 10, verset 29. Marthe et Marie, donc verset 29 et suivant. Comme il faisait route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Donc on connaît ce passage-là de Marthe et Marie, qui est aussi intéressant, comment être témoin du Seigneur. Quelle est la souffrance de Marthe? Il y a un mot qu'il faut retenir. Marthe, elle est seule. Pourquoi ma sœur me laisse toute seule faire le service? Mais elle est seule parce qu'elle n'a pas demandé de l'aide. Elle est seule. Et c'est intéressant, c'est qu'aussi, c'est ce qu'on a pas, on appelle, vous pouvez dire ça dans les dîners mondains, un apax, légoménon, un apax. Un apax dans la Bible, c'est un mot qui intervient une seule fois. On le trouve qu'une fois. Il n'y a qu'une Marthe dans la Bible, c'est elle. Déjà, elle a une solitude biblique, on va dire ça comme ça. Mais ensuite, elle-même, en fait, elle n'a pas compris que le fait de demander de se laisser aimer, c'est se laisser aider. Et donc, de demander de l'aide. Non, elle est dans le faire, elle est dans l'activité, elle est dans la... et je crois que c'est pas tant le fait, on dit oui, le faire et l'être, etc. C'est pas tellement ça, c'est plutôt la solitude. Il n'est pas bon d'être seul. Alors qu'elle a une sœur, et peut-être d'autres certainement qui étaient là, d'autres femmes qui étaient là probablement. Je veux dire, ensuite, ça va devenir la maison des amis de Jésus, etc. Donc, elle est aussi témoin de Jésus, mais bon, on voit qu'il y a une colère chez Marthe. Il y a une colère chez Marthe parce que qui vient de cette solitude. Et je trouve que cette colère-là, vient du fait de ne pas mettre... Elle a oublié l'hôte. Elle a oublié son hôte. Elle a oublié la personne qu'elle recevait, qui est la personne du Seigneur. Marie a reçu la meilleure part. Marie, non pas qu'elle soit paresseuse, elle n'est pas paresseuse, mais elle écoute la parole de Dieu. Donc, bienheureux celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Donc, voilà, c'est d'écouter cette parole, elle a été témoin de Jésus par cette dimension plus contemplative. Parce que Marie, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle est avec Jésus. Et peut-être d'autres à côté aussi, on imagine, d'autres qui sont à côté et qui écoutent la parole de Jésus. Marthe s'affaire. Affairée sans rien faire, voilà, affairée. Elle est affairée, mais bon, ma parole est une nourriture. Donc, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant de dire, tiens, au fond, est-ce que être témoin de Jésus, c'est d'abord d'avoir cette rencontre personnelle, ce temps pour la prière, ce temps pour l'écoute de la parole, ce temps pour... D'abord, on se laisse rejoindre par le Seigneur, et dans nos vies agitées, dans nos vies, voilà, on voit bien que c'est la question du repos. Qu'est-ce qui refait vos forces? Qu'est-ce qui refait vos forces? Qu'est-ce qui vous reposerait, comme il y a l'été qui arrive? Vous choisissez quoi? Ou est-ce que vous allez revenir plus épuisé que vous n'êtes parti de vos vacances? Vous voyez, c'est intéressant de qu'est-ce qui refait, qu'est-ce qui me restaure intérieurement. C'est pas simple à trouver. Et je trouve que c'est intéressant d'être, de voir Jésus qui réveille en fait cette dimension contemplative de Marie, voilà. Alors que Marthe, voilà, elle est dans la colère, elle est dans la solitude, elle a une forme d'activisme, elle a une forme de bon. Mais c'est pas le fait de faire qui c'est juste. Elle est seule, elle est enfermée dans une solitude. Mais c'est une personne très généreuse, Marthe. Elle a un cœur d'or. On voit bien comme ça des gens qui sont très dans la affairée, très. Voilà, mais c'est dans le service. Leur langage de l'amour, c'est le service. Vous voyez. Mais peut-être de dire, ben, ça, quand on est en présence de Jésus, il y a peut-être un autre langage de l'amour. Et voilà, soyez attentifs à ça. Et le fait de prier avec quelqu'un, c'est justement descendre dans le cœur. On est en vérité quand on prie. Hein, on descend à l'intérieur. Bon, et je crois que c'est bon. C'est une manière d'être témoin, je trouve. C'est vraiment une manière d'être témoin et du Seigneur et de par la vie de prière, par par l'écoute de la parole, par justement prendre un temps dans une vie survoltée, etc., dans une ville aussi, voilà, qui fait tout pour. Puis on peut avoir une sorte d'activisme spi aussi, tu vois, tous les soirs. Par exemple, ce soir au Bernardin, il y a un truc, Pitch Matcher, etc. Voilà, bon, ouais, tous les soirs à Paris, c'est quelque chose de catho. Quoi. On peut tomber dans une sorte d'activisme catho, tu vois. Donc, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a un temps de silence? Quelle est la part de vie contemplative dans vos vies, hein, de vous vraiment vous laisser descendre le cœur à cœur avec Jésus, et c'est ça qui va faire que vous êtes témoin. Et de prier peut-être dans le métro, de prier dans des lieux, voilà. Discrètement, mais le fait de prier, etc. Quand on est sur la route, c'est bien de ne pas trop fermer les yeux, mais bon, mais voilà, il y a d'autres moments. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant, cette histoire de Marthe et Marie, parce que on est justement dans une société très dans l'activisme, et je crois que ça, c'est témoin de Jésus, c'est savoir s'arrêter, comme Jésus s'arrête, hein, rejoint l'immobile qui est l'aveugle de Jéricho, etc. Ensuite, j'aime bien Zachée, parce qu'après, dans Luc, après la rencontre avec l'aveugle de Jéricho, il y a la rencontre de Zachée. Alors, vous connaissez bien, je relis, hein, donc on est en Luc 19, 1 et suivant. Luc 19, 1 et suivant. Entré dans Jéricho, il traversait la ville, et voici un homme appelé du nom de Zachée. C'était un chef de publicains et qui était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait à cause de la foule et car il était de petite taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite, il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai extorqué quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé à cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, c'est très puissant. Quand Jésus rencontre quelqu'un, il réveille le désir. Oui, il réveille le désir. Quand Jésus rencontre quelqu'un, il fait changer, la personne change. On a vu avec l'aveugle de Bartimée, la personne se révèle, même avec Marthe et Marie, la personne se révèle. Marthe, elle se révèle, voilà, dans sa solitude, dans sa colère, elle se révèle. Il y a une sorte de révélateur, le Christ fait révélateur. Alors bon, c'est vrai qu'on est le Christ, c'est un peu plus facile que, voilà, j'imagine me révéler. Mais nous, comment est-ce qu'on peut réveiller le désir de l'autre, encourager le désir de l'autre, encourager ce qui fait bien. C'est intéressant, vous vous rappelez, sur la plage après la résurrection, Jésus qui parle à Pierre par 3 fois, m'aimes-tu, vous vous rappelez ce passage-là, et à la fin, il lui dit, affermis tes frères, va affermis tes frères. Et je pense que notre rôle, c'est aussi d'encourager, et du coup de réveiller le désir. Cet homme-là, il est chez un pêcheur, de même, vous vous rappelez, chez Simon le pharisien. Chez Simon le pharisien, ces rencontres. Regardez après, peut-être un petit travail perso à faire, de regarder toutes les rencontres, c'est intéressant, les rencontres de Jésus, ça, les témoins, comment il était témoin du Père, en fait, parce que Jésus aussi est un témoin, comment il a rendu témoignage. Donc, chez Simon le pharisien, où il y a cette femme qui vient, qui embrasse les pieds de Jésus, qui pleure, baigne de ses larmes, qui les sèche avec ses cheveux, etc. etc. Et Simon dit, ben, si cet homme était prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse, etc. Puis ensuite, vous connaissez la suite, mais c'est-à-dire qu'il a réveillé le cœur, il a réveillé le cœur de cette femme, qui était certainement une prostituée, et qu'est-ce qui a sauvé cette femme, c'est que ce qui cherchait, ce qui était, comment dire, chez cette femme, les cheveux, les baisers, etc., bon, qui peut-être détournait les hommes de leur vocation, maintenant il les met en contact avec Jésus, et c'est ça qui la sauve. Et ça, c'est... Du coup, Jésus réveille le désir, réveille le cœur. Il ne laisse pas l'autre s'enfermer dans l'image, le qu'en dira-t-on, le... Dans tous les collègues, il y en a forcément un ou une qui vous agace. Donc que chacun visualise, voilà, qui, et puis dans ma communauté, s'il y en a qui m'agacent. Mais justement, du coup, et puis on se renomme, oh, bah, t'as vu une telle, puis oh, ça papote, ça critique beaucoup. Et si c'était la grande chance de votre vie? Là, on est vraiment de dire, au fond, de s'approcher de cette personne qui est par ailleurs agaçante, mais s'approcher vers le bas. Voilà, je veux loger chez toi, etc. C'est-à-dire, je veux, tiens, parce que forcément, la personne n'est pas idiote, elle voit bien qu'elle est rejetée, parce que pour X raisons, bon. Mais est-ce que je suis prêt à m'approcher de celui qui est pénible? Vous voyez, c'est intéressant. Aimer ses ennemis, c'est... Qui est l'ennemi? Celui qui, justement, me fait grimper au rideau, qui m'agace, qui me... etc. Qui vient toucher mon incapacité d'aimer. Peut-être qui réveille ma violence. Qui est l'ennemi? Et donc, dans le milieu professionnel, posez-vous la question, la personne qui vous coûte le plus... Est-ce que c'est pas la grande chance de votre vie? Est-ce que c'est pas au fond d'aller à la rencontre? Parce que oui, c'est jaché, non, surtout, le Seigneur n'y va pas. Publicain, vous savez, c'est collecteur d'impôts, grosso modo collabo du pouvoir romain, envahisseur, etc. Surtout, n'y va pas, etc. Bon, voilà. Mais finalement, il y va. Et je trouve que de rejoindre l'autre et de réveiller le désir et de poser un autre regard nouveau. Parce que si vous, n'oubliez pas, si vous qui... vous êtes agacé, n'oubliez pas que la personne vit 24 heures sur 24 avec elle-même. Et donc, du coup, il est probable aussi qu'elle s'agace elle-même, et il est probable qu'elle se décourage elle-même. Vous vivez 8 heures, et encore, vous n'êtes peut-être pas dans le même service, vous la croisez ou pas, bon, voilà. Donc, je trouve c'est intéressant, comment est-ce qu'on se sert de ça pour réveiller le désir de personnes qu'on a enfermées dans un candidaton sur des personnes sur lesquelles on a mis une étiquette. Alors peut-être que la personne est vraiment pénible. Lui, il est vraiment collabo. Je veux dire, il a certainement estorqué, parce qu'il dit « je rendrai 4 fois », donc il l'a déjà fait. Donc c'est pas un saint. Mais c'est intéressant, Jésus est passé au-delà, on est témoin, parce qu'on passe au-delà des candidatons et on rejoint le mystère de la personne. On ose la rencontre. Tiens, est-ce que tu serais disponible pour faire ceci, pour cela? Qu'est-ce qui est pertinent? Voilà, n'en restez pas au candidaton, à la rumeur publique, etc. Jésus, il voit d'abord la personne et il voit le cœur, le bon cœur de chacun. Et aussi, je crois qu'on est témoin de Jésus en encourageant ceux qui n'ont pas notre propre foi, mais qui font le bien. Ou qui n'ont pas de foi du tout, mais qui font le bien. Vous voyez, je trouve qu'on est témoin de Jésus comme ça. Toi, ce que tu fais, moi, dans ma foi catholique, moi, j'appelle ça le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Toi, je ne sais pas ta foi, mais dans ma foi, c'est ça. Le Saint-Esprit, évidemment, agit et en tout temps, en tout lieu, sinon il n'y aurait pas de conversion, s'il n'agissait que chez les baptisés. Mais justement, de dire une personne qui fait le bien et de dire, tiens, ça, ma foi, me fait dire que vraiment, ça m'édifie ce que tu fais. Et de dire, vous le dites au nom de votre foi. Là aussi, il sortait du bois. Donc, voilà, je pense que c'est intéressant. Zachée, justement, il voulait voir Jésus, il y a un désir d'être reconnu. Zachée, il voulait être reconnu, certainement. Il était de petite taille, il monte sur un sycomore, c'est pas grave. Il voulait une reconnaissance, il avait soif de reconnaissance. On a tous soif de reconnaissance, d'être reconnu dans notre. Qu'on n'ait pas juste le résumé à nos actes plus ou moins bons. On a quelque chose de plus. Et Jésus l'a reconnu. Il s'est arrêté, encore une fois, tac, est en chemin, beaucoup de gens autour. Surtout que c'était après l'aveugle de Jéricho, donc je vous raccompagne, il y avait aussi l'aveugle de Jéricho derrière, qui pour le coup voyait clair, qui suivait. Donc, alors que l'aveugle de Jéricho était sur le bord du chemin, il le suivait. Et c'est intéressant de dire qu'il y a des gens. Bon, la suite du Seigneur, il y a des curseurs. C'est-à-dire que Zachée, on n'en entendra plus jamais parler. Il ne sera pas à la Passion. Bartimée, il ne sera pas à la Passion. Il y a aussi beaucoup des apôtres, à part Jean, aucun n'a été au pied de la croix. Donc, on connaît les prénoms de ceux qui ont été au pied de la croix. Mais c'est intéressant, c'est que il y a eu l'irruption du sacré, ils ont vécu quelque chose. Il y a des tas de gens comme ça, j'en suis sûr, qui vivent des choses. Mais comme on ne leur indique pas un chemin, et nous savons le chemin, hein, qui me voit le Père. Hein, nous savons le chemin. Notre foi est un chemin sûr pour notre âme, mais un chemin sûr aussi pour d'autres. C'est un chemin balisé, parce que la partie spirituelle, tu peux vraiment partir dans le décor, aller dans une sorte de formes de spiritualité désincarnée, mais justement, notre foi, elle a un chemin sûr. C'est ça, c'est cette foi. Le fait de dire, on sait ce qui est conforme à l'Évangile, ce qui n'est pas conforme à l'Évangile. Donc, plutôt que de laisser les personnes errer avec leurs désirs, le fait de proposer ça, du coup, vous prenez soin de l'âme de l'autre. Et, je trouve ça intéressant de dire que ça tient de déjà convaincu que notre foi est un chemin sûr, hein, que notre voilà, c'est quelque chose de, on est en sécurité avec le Seigneur, mais aussi on est en sécurité parce qu'on appartient à une communauté de croyants, hein, parce qu'il y a des choses voilà, qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, etc. Bon, donc je pense que c'est important d'être de pas avoir peur de justement par rapport à Zachée, l'irruption du sacré. Il y a une nouveauté, on dit le Nouveau Testament, il y a une nouveauté qui intervient dans sa vie, il y a un autre regard, et tous ceux autour de lui ont changé de regard. On imagine bien, mais est-ce qu'il est bien conscient qu'il va loger chez un pêcheur? Et puis on voit, ah oui, il est prêt à rendre 4 fois, peut-être il y avait des gens qui étaient en face de lui, qui avaient été extorqués par lui, certainement, et qui, je vais rendre 4 fois, etc., donc est-ce que je donnerais mes biens aux pauvres? Bon, voilà, donc, il y a une nouveauté dans sa vie, il y a une irruption dans sa vie. Et vous savez, par exemple, les amitiés, je suis là grâce à des amis qui... Je suis baptisé, famille catho, etc. Mais des amis qui, eux, vivaient une foi. Et les amitiés, c'est important. Et qui m'ont proposé une retraite, etc., qui était un avant, un après, et qui m'ont ensuite donné la main pour que je chemine. Voilà, j'étais un peu tiède, voilà. Et puis voilà. Mais les amitiés, c'est important. Être ami, c'est aussi être témoin. C'est être proposant, être. De gens qui ont reçu la même éducation que vous, mais qui s'en sont éloignés d'une manière ou d'une autre. Voilà, je pense que c'est intéressant, ça, de savoir ça, d'être l'irruption du sacré, d'une nouveauté dans une vie. On est témoin parce qu'on propose quelque chose de neuf, d'inattendu. On n'aurait pas pensé ça. Tiens, je n'aurais pas pensé que toi, que tu étais catholique, je n'aurais pas pensé que toi, que tu étais croyant, croyante. Je sais pas. Voilà, c'est... Et de proposer... Donc je pense que c'est intéressant de voir cet homme Zachée qui, voilà, et c'est intéressant, celui, attends, j'y pense là maintenant, mais en fait l'aveugle, Bartimée, il suivait Jésus, on dit, il était sur le bord du bord du chemin, il est parti ensuite sur le chemin, c'est ce qu'il nous est dit là, c'est ce qu'on vient de lire. Du coup, c'est la première fois qu'il voyait Zachée. Mais il avait peut-être entendu parler, mais il n'avait jamais identifié comme personne, par définition. Il a eu un regard neuf aussi sur Zachée. C'est-à-dire que le fait de soi-même avoir été rejoint dans nos blessures fait qu'on a un regard neuf. Il y a une nouveauté qui est intervenue dans notre vie, qui fait qu'on a une autre manière de regarder. La foi, c'est le chemin du regard. Alors que tout s'était mis sur, oui, c'est un homme pécheur, etc. Et Jésus, qui voyait pour la première fois Zachée, et l'aveugle Bartimée, ou un regard neuf sur lui, bienveillant. Ils ne savent pas qu'ils n'ont pas. Voilà, donc ils ne reconnaissaient pas les difficultés par lesquelles il était passé. Oui, il a été peut-être extorqué, il a été malhonnête, etc. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très beau, ça, cette manière d'être témoin, d'être. De réveiller le désir, de changer de regard, de... Bon, je trouve ça vraiment... Et on est vraiment attendu là-dessus. Et posez-vous la question, quelle est ma manière de regarder, quel est mon... Ensuite, le dernier point que j'aimerais bien méditer avec vous, c'est la femme adultère dans Jean. Jean, que vous connaissez, Jean 8, 1 et suivant. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Mais dès l'aurore, de nouveau, il fut dans le temple, et tout le monde venait à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Or, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en flagrant délit d'adultère, et la placent au milieu. Ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, de Moïse, il nous est demandé de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus se baisse et se mit à écrire de son doigt sur le sol. Comme il se redressa, il leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. » Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, commençant par les plus âgés. Il fut laissé seul avec la femme, toujours là, au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ?» Elle dit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche pas. » Très intéressant ce passage-là de la femme adultère. Justement, comment le regarde Jésus, voilà. Il arrive, les gens qui sont en situation irrégulière. Zachée, il est en situation irrégulière. Cette femme aussi. Bon, Marthe et Marie, non. Mais, et donc, comment est-ce qu'il fait ? Comment est-ce qu'il s'y prend ? Il voit d'abord le mystère de la personne. Et d'abord, il s'abaisse. Et vous avez peut-être vu le très beau film de Mel Gibson, La Passion du Christ, hein, où on voit ce passage. Dans les flashbacks, on voit Monica Bellucci, la belle italienne, qui a demandé à jouer ce rôle-là. Elle a demandé. Et du coup, on la voit justement par terre, on la voit complètement, alors que là, elle est debout, elle est interprétée de façon différente. Mais c'est intéressant de voir que Jésus s'abaisse. Et il s'abaisse deux fois. Et s'abaisser, c'est-à-dire se mettre au niveau pour. Le salut commence par un abaissement. Il s'est abaissé jusqu'à la croix et la mort de la croix. Voilà. Il y a un abaissement. Il est écrit sur le sol. C'est la seule fois où Jésus a écrit. Jamais Jésus n'a écrit. Comme Socrate. Un petit peu de différence entre Jésus et Socrate, mais Socrate n'a pas écrit. Platon, oui. Platon, ensuite ceux qui ont suivi, mais il n'a eu que. Et c'est la seule fois que Jésus a écrit sur le sol, donc sur le sol sablonneux, etc. Bon. Et qu'est-ce qu'il a écrit ? Un homme qui a écrit qu'une fois, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a écrit ? Alors, vous avez mille interprétations, vous aurez certainement la vôtre. Une interprétation que j'aime bien, c'est qu'il écrivait les péchés de ceux qui étaient en face. Et du coup, on comprend après que celui qui est sans péché jette le premier la pierre, parce que celui qui jette la pierre dans une lapidation prend le sang de la victime. Donc son sang retombe sur lui. Donc c'est que celui qui a péché jette le premier la pierre. C'est-à-dire que il écrivait les péchés et il révélait aux accusateurs leur propre aussi adultère. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un péché si ce n'est manquer à l'alliance ? Et qu'est-ce qu'un adultère ? C'est manquer à l'alliance. Donc, et ensuite, il se rabaisse une autre fois. Donc, première fois, il s'abaisse pour les pharisiens. Deuxième fois, il s'abaisse pour la femme. Où sont-ils tes accusateurs ? Qu'est-ce qui va sauver cette femme ? C'est de se retrouver seule avec Jésus. Vous voyez ? Et donc, notre rôle comme témoin, c'est de permettre ce cœur à cœur, mais de se retirer aussi. On permet le cœur à cœur. On n'a pas, parfois, débordant de zèle, etc., on veut absolument que l'autre, voilà, découvre Jésus comme moi je l'ai découvert, etc. Il y a une retenue à voir, pour le coup. Quand l'autre est en chemin, eh bien, ce cœur à cœur, être seul avec Jésus, qui va faire que sa vie va changer. Et je serai témoin en me retirant. En laissant... qui suis-je pour dire le chemin de l'autre, la vie spirituelle de l'autre, qui suis-je pour mettre la main dessus, tu vois, c'est... Donc je pense que voilà, ces manières d'être témoin, je trouve c'est aussi ce retrait, etc., et de laisser Jésus là, rejoindre la personne. Et dans la prière, je trouve le prier avec, il y a aussi ça, cette idée-là, de, on laisse l'autre rejoindre. Se laisser rejoindre par le Seigneur, hein, et se laisser sauver, au fond, parce qu'elle a été sauvée physiquement, mais aussi spirituellement. Hein. Mais tu vois, cette femme-là, on ne connaît pas son prénom. Elle n'était pas au pied de la croix. Elle n'est pas devenue disciple. Elle n'est pas devenue disciple. C'est intéressant. C'est, Jésus a fait qu'elle a juste sauvé la vie, je veux dire, bon. Mais elle n'est pas devenue disciple. C'est-à-dire, du coup, c'est... il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous voyez, c'est vraiment... c'est, le chemin pour aller vers Dieu est tellement unique. Et quand quelqu'un commence un chemin vers le Seigneur... comment est-ce qu'il faut être respectueux? Hein, pour que l'autre soit rejoint. Oui. Voilà, donc je pense que cette forme de discrétion... qui permet de cœur à cœur, quand l'autre est en chemin, et puis ensuite, quel est son chemin? Voilà, pour le coup, c'est le chemin vers Dieu. Pour le coup, c'est bon, on peut proposer, mais on n'a pas, on met pas le curseur au même endroit. On n'a pas de... Moi, ce qui m'avait surpris, quand la première fois que je suis allé à Lourdes, comme religieux, etc., moi, ça m'a surpris, un truc qui m'a complètement surpris, c'est que il y a des gens... il n'allait à la messe que dans le pèlerinage. En dehors du pèlerinage, il n'y avait rien. C'était leur temps spi. Mais alors, je me suis dit, bon, forcément, ils sont très convaincus, etc. Non, ils sont aussi, oui, peut-être oui, mais le moment, leur moment avec le Seigneur, c'est le pèlerinage à Lourdes. C'est le pèlerinage à Lourdes, c'est leur moment. Bon, et puis en dehors de ça, bon, ils ne font pas la messe, ils... peut-être ils ne prient pas, peut-être ils mettent un cierge comme ça, en passant dans une église, voilà, donc, je trouve ça, ça m'a beaucoup servi de leçon de... tout le monde n'est pas appelé à être disciple, tout le monde n'est pas appelé à être apôtre, ou évangélisateur, etc., docteur, voilà, c'est ce que dit saint Paul dans un passage. Mes amis, voilà, c'est un peu différentes choses, mais peut-être vous avez des questions, vous avez vous-même des apports là-dessus d'être témoin du Seigneur, comment ça retentit dans vos vies, comment... ou des questions que ça vous a posées, par exemple dans la vie professionnelle, ou peut-être dans la vie familiale, amicale. Oui.
Peut-être partager un truc. Moi, c'est vrai que j'ai pas nécessairement honte de parler de ma foi, même dans le cadre du travail. Là-dessus, c'est assez open. Hein. Et il y a quelque chose que j'aime bien, c'est une notion de feu rouge, feu vert. C'est-à-dire que, en fait, bah, par exemple, effectivement, quand on dit bah, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, ah, bah, moi je raconte, bah, voilà, j'ai fait un cours de théologie, machin, et puis je suis allé à la messe, j'étais à la chorale et tout ça. Effectivement, on voit si ça intéresse. Et en fait, si c'est feu rouge, ben en fait, faut pas tout envoyer, quoi.
Oui.
Mais si on voit qu'il y a feu vert, ben là, faut y aller. Deuxième type intéressant, c'est que là, le père nous disait, ben voilà, en fait, c'est quoi vous, votre rencontre avec Dieu? C'est une vraie question, en fait. Mais du coup, ça se pose aussi, c'est-à-dire que moi, un moment, pour apprendre à raconter mon histoire, me supposer, j'ai pris un papier, un crayon pendant une heure, et c'est quoi mon histoire? Pourquoi je crois, en fait? Parce qu'il faut apprendre aussi à raconter. Pour que derrière, mais sans mentir, hein, vraiment, ça n'a pas besoin d'être exceptionnel, il faut juste que ce soit vrai. Et en fait, mais ça se bosse, quoi. On n'est pas là, c'est un truc personnel et intime, si jamais on les a pas bossés.
Merci pour ton témoignage. D'autres veulent rajouter des choses? Qu'est-ce qu'ils ont? Il y a tous ces... liberté, là, qu'est-ce qui... l'occasion peut-être de dire leur foi, déjà de soi-même, est-ce qu'on a mis, tu dis, pourquoi je crois, Oui, oui. Donc je répète la question. La question, c'est de dire le fait si je commence à dire à sortir du bois, etc. Mais je ne serais peut-être pas forcément cohérent entre mes paroles et mes actes, parce que je pourrais critiquer, parce que je pourrais me mettre en colère, parce que je pourrais voilà, parce que c'est bon. Et je pense que là, c'est intéressant parce que le fait, une barrière, c'est pas forcément d'être parfait. Le Seigneur ne demande pas d'être parfait. De ce point de vue-là, on sait très bien quoi. Mais le fait aussi de reconnaître que ça n'a pas été la bonne manière de dire les choses, je trouve que ça peut être quelque chose d'important. Quoi. Donc, voilà, je pense que voilà, ne vous mettez pas la pression, c'est pas parce que vous êtes identifié comme disciple de Jésus, etc., que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Quoi. C'est aussi une humilité. Et puis ensuite, on peut aussi demander pardon, ce qui est quand même très peu fréquent dans la vie professionnelle. Parce qu'on n'a pas été... on n'a pas eu le ton juste, on n'a pas eu la manière juste. Surtout, bon, si vous commencez à avoir un peu de hiérarchie, etc., vous êtes dans le management, ou vous aspirez à l'être. Voilà.